Il est midi et demi et le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
J'ai pris avec philosophie la sage décision de démissionner de mon poste de président de la Fédération.
Déclaration à l'instant de Didier Gayaguet, le président de la Fédération des sports de glace qui était dans la tourmente depuis une semaine, depuis les révélations de l'ancienne championne Sarah Abitbol. Et alors que la ministre des Sports avait demandé lundi sa démission, nous serons en direct de la Fédération des sports de glace dans un instant avec Christophe Lamarre. 5 nouveaux cas de coronavirus en France annonce faite ce matin par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. 4 adultes et un enfant dont l'état n'inspire aucune inquiétude.
Un numéro de téléphone spécifique a été ouvert en local pour répondre aux questions des personnes directement concernées par ce regroupement de cas.
Les responsables de l'usine Lubrizel avaient-ils pris les mesures suffisantes pour éviter l'incendie de septembre dernier? Un rapport de l'assureur de l'entreprise révélé par le journal Le Monde et Mediapart pointait des dysfonctionnements graves 15 jours avant. Une vente aux enchères exceptionnelle hier à Paris avec une ancienne voiture de Johnny Hallyday.
C'est son authentique voiture de course, c'est vraiment mythique, oui, parce que là vous avez Johnny et la Mustang.
La météo avec Valérie Darmon qui nous dira que c'est le calme avant l'arrivée de la tempête Ciara. Et puis vous le savez, à 13h on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous irons aux États-Unis avec un reportage incroyable de notre correspondant Xavier Yvon au cœur des caucus de l'Iowa, marqué par un cafouillage comme on n'en avait jamais vu.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est donc lui qui a pris la parole, qui a donc annoncé il y a quelques instants à peine sa démission, Didier Gayaguet, qui était dans la tourmente depuis une semaine maintenant, le président depuis 20 ans de la Fédération des sports de glace. Je vous propose tout de suite de l'écouter.
Après avoir dit haut et fort ma vérité sur ce qu'est notre belle fédération, et dans le souci de pur apaisement, j'ai pris avec philosophie, avec dignité, mais sans amertume aucune, devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste de président de la Fédération. Je souhaite bon vent à tous. Je resterai un fidèle à la passion amoureuse qui m'a authentiquement animé, celle des sports de glace et de ceux qui la font vivre, à savoir les présidents de clubs et les athlètes.
Didier Gayaguet, donc à l'instant, qui tire sa révérence, qui démissionne, qui l'annonce lui-même devant le siège de la Fédération des sports de glace. Où vous vous trouvez, Christophe Lamarre ?
Oui, effectivement, pour tout vous dire, c'est un petit peu la surprise parce que on pensait que cet homme qui est un habitué des combats de boxe, qui d'ailleurs se nourrit souvent de ses duels avec ses opposants, on pensait que Didier Gayaguet jusqu'au bout chercherait à se maintenir et que peut-être il aurait à affronter une motion de défiance du Conseil fédéral qui s'était réuni ce matin un petit peu avant 10h. Eh bien là, non, finalement, Didier Gayaguet a dû se rendre à l'évidence. Peut-être s'est-il senti en danger, peut-être a-t-il senti qu'il allait être mis en minorité. Il a préféré donc démissionner pour permettre à la Fédération française des sports de glace, dit-il, effectivement d'avancer et surtout de jouer l'apaisement à un Didier Gayaguet qui a eu des mots très durs à l'encontre de la ministre Roxana Maracineanu qui, d'après lui, cherchait une victime sacrificielle. Didier Gayaguet qui s'en va, il va falloir maintenant évidemment passer à autre chose, même si l'enquête sur les viols et agressions sexuelles ne fait que commencer. Mais il va falloir maintenant que la présidente du Conseil fédéral, Marie-Yvonne Del Torchio, convoque de nouvelles élections. Ce sera fait d'ici 5 semaines, puisque désormais la fédération a 5 semaines pour convoquer de nouvelles élections et s'offrir donc un nouveau président ou une nouvelle présidente.
Merci beaucoup Christophe Lamarre, en direct du siège de la Fédération des sports de glace avec donc à l'instant, il y a quelques minutes, cette annonce qui a, j'ai envie de dire, pris de court tout le monde, puisqu'on se souvient que lundi, Roxana Maracineanu demandait à Didier Gayaguet de démissionner et que le lendemain, il disait qu'il n'en était pas question. Il a donc pris sa décision après ce Conseil fédéral extraordinaire. Il démissionne. On y reviendra avec mon invité à 12h45, la psychologue Myriam Salmi, qui a accompagné de nombreux sportifs et entre autres Sarah Abitbol dans à l'INSEP avec des sportifs de haut niveau.
Europe 1 midi 35, la suite du journal Fabienne Lemoelle.
Alors que la ministre de la Santé annonçait hier soir la sortie probable dans les prochains jours de l'hôpital des malades infectés par le coronavirus, on apprend ce matin que ce sont désormais 11 personnes qui sont touchées en France. Alors rien d'alarmant, Marion Gauthier, mais ces 5 nouveaux cas annoncés toujours par Agnès Buzyn ce matin font tous partie d'un même groupe de touristes qui se trouve en région Rhône-Alpes.
Oui, ils séjournaient tous dans un chalet de la station des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie. C'est ce que la ministre de la Santé appelle un cluster, comprenez, un regroupement de malades autour d'un cas initial. Il faut donc remonter à ce fameux cas initial. Un ressortissant britannique parti à Singapour fin janvier pour un événement professionnel, arrivé aux Contamines-Montjoie quelques jours plus tard. Le diagnostic est tombé hier. L'homme rentré en Grande-Bretagne, est atteint du coronavirus. Les 11 personnes avec qui il a été en vacances en France sont toutes hospitalisées dans les CHU de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble. 5 cas confirmés ce matin, mais il faut le souligner, leur état clinique ne présente aucun signe de gravité. Reste à identifier les contacts proches qu'ils ont eus chacun ces derniers jours, explique Agnès Buzyn.
Cette opération se fera en lien avec les autorités internationales et bien évidemment les autorités britanniques. Un numéro de téléphone spécifique a été ouvert en local pour répondre aux questions des personnes directement concernées par ce cluster, c'est-à-dire ce regroupement de cas. Le numéro est le 0800 100 379.
Alors, ce début de vacances d'hiver, pas encore d'éléments sur les mesures sanitaires prises en Auvergne-Rhône-Alpes, où une cellule de crise a toutefois été ouverte dès hier par l'Agence régionale de santé.
Et Marion Gauthier, donc on l'entend, rien d'alarmant pour ces nouveaux cas en France, alors qu'en Chine, le dernier bilan fait état de 720 morts et une première victime non chinoise, un Américain de 60 ans qui est décédé dans un hôpital de Wuhan. Est-ce que les responsables de l'usine Lubrizol avaient bien pris toutes les mesures de sécurité pour éviter l'incendie du mois de septembre dernier à Rouen ? La question peut se poser après les révélations du journal Le Monde et de Mediapart. Un rapport de l'assureur de l'usine pointait en effet, 2 semaines avant l'incendie, des dysfonctionnements majeurs, Pierre Herbulot.
Oui, c'est le constat fait par ces 2 inspecteurs qui déambulent toute une journée dans l'usine. Ils remarquent d'abord ces bidons en plastique qui contiennent des substances chimiques. En cas d'incendie, ils vont fondre et 1000 litres de produits inflammables vont couler dans le bâtiment. C'est ce qu'ils écrivent dans leur rapport, c'est ce qui se produira quelques jours plus tard. Même constat alarmant sur le dispositif de protection incendie. Les sprinklers, ces extincteurs automatiques au plafond, inquiètent la compagnie d'assurance. Ce rapport, la direction de Lubrizol l'a eu entre les mains 3 jours avant l'incendie et même dès 2008 et des précédents rapports. La catastrophe aurait dû être évitée pour Gérald Lecor, responsable santé au travail à la CGT Seine-Maritime.
Oui, ça sera une pièce, je crois, maîtresse du dossier pénal pour démontrer que l'entreprise avait une parfaite connaissance du risque incendie avec un scénario catastrophique. Et le scénario était écrit donc à partir d'octobre 2008 et l'entreprise n'a pris aucune mesure qui était demandée pour les assureurs pour éviter effectivement un feu de telle ampleur.
La direction de l'usine se défend auprès de nos confrères du Monde qui révèlent le rapport. Le site de Rouen, y compris tous ses équipements, répond Lubrizol, était en conformité avec la réglementation en matière de santé, sécurité et environnement au moment de l'incendie.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. Ce sont donc les premiers départs en congé de la zone C, c'est-à-dire la région parisienne, toulousaine et Montpellier. À peu près 10% des Français choisissent la montagne pour ses vacances. Et pour éviter que le budget ne flambe, il faut anticiper, comme a pu le constater Justin Morin.
Je m'y prends très tôt et je regarde, je mets des alertes. Donc en général, c'est réservé très longtemps à l'avance.
Aucun stress pour le départ de Sophie. Avec son mari et leur fils, le départ aux Arcs est prévu depuis bien longtemps. Les billets de train réservés depuis 3 mois. Quant au matériel de ski...
Il y a 5 mois qu'on a déjà réservé. Il suffit juste de tomber sur les bonnes occasions, sur les sites de vente en ligne, de bons de réduction. Et puis bah voilà, c'est parti. Maintenant, il faut voyager malin, on est obligé.
Le budget a été fixé bien en amont. Idem pour la famille d'Aurélie.
C'est les vacances les plus chères, c'est un budget qu'on calcule sur une année.
Budget prévisionnel, 400 euros de train, 700 euros de forfait, sans compter le matériel des 2 enfants.
Là, on s'est débrouillé, on l'a acheté sur le bon coin. On demande à des copains de nous prêter les vêtements. On se les passe d'enfant à enfant. Parce que c'est vraiment un budget et chaque année, il faut les changer. Donc on arrive à tourner comme ça dans un petit cercle fermé. Pour nous, non, on investit parce qu'on les garde maintenant.
Après, c'est aussi de l'achat d'occasion. Après, on mange des patates tout le reste de l'année.
Le partage de la location avec d'autres membres de la famille permet aussi de réduire les dépenses. Au final, le couple ne compte pas dépasser les 1 500 euros. Mais pour tous ces vacanciers que j'ai rencontrés, tant pis, ça en vaut la peine.
Justin Morin. Et puis une vente exceptionnelle hier au salon Rétromobile à Paris. Au milieu des vieilles Renault, Aston Martin et autres Ferrari, c'est une voiture qui a appartenu à Johnny Hallyday qui a été mise aux enchères sous les yeux émerveillés de notre reporter Flavien Groyer.
Une entrée digne d'une star pour la Ford Mustang GT de Johnny. Le bolide noir et blanc trône au milieu de la salle des ventes, illuminé par les projecteurs.
Débutons les enchères à 80 000. 100 000.
Sébastien, un fan de voitures et du rocker, est venu de La Rochelle pour le plaisir des yeux et pour retrouver un peu de Johnny.
Aujourd'hui, d'une personne qui n'était pas touchable pour un autre monde, c'était difficile de pouvoir approcher ce genre de véhicule. C'est un peu le moyen de s'en rapprocher. Hein.
Patrick, un amoureux des belles autos lui aussi, a remis la Mustang en état. Pour lui, c'est son histoire qui va décider les acheteurs.
C'est son authentique voiture de course. En 67, il avait signé un contrat pour 3 courses et il les a fait. Avec un meilleur classement et qui était deuxième à Montlhéry. C'est vraiment mythique, oui, parce que là, vous avez Johnny et la Mustang. J'espère que les enchères vont flamber.
Mais dans la salle, les potentiels acquéreurs sont frileux. C'est trop cher par rapport au reste du salon, estime Didier.
Je retrouve des voitures similaires ici qui coûtent 2 fois le prix de ce qui est vendu en haut.
La voiture est adjugée à 205 000 euros. C'est un acheteur étranger au téléphone qui ajoutera la Mustang à sa collection.
Flavien Groyer.
Le journal des sports.
Avec Axel May, et puis on rappelle bien sûr cette principale information que l'on a appris au début de ce journal, la démission de Didier Gayaguet de la présidence de la Fédération des sports de glace. Il dit que dans un souci d'apaisement, il a pris avec philosophie, dignité, mais sans amertume, la sage décision de démissionner. Annonce faite devant les journalistes à la sortie d'un conseil fédéral extraordinaire qui est en quelque sorte l'épilogue d'une semaine où la ministre des sports lui avait demandé de démissionner après les révélations de l'ancienne championne Sarah Abitbol. On en reparlera dans un instant avec mon invitée, la psychologue Myriam Salmi. Elle a été responsable du suivi psychologique des sportifs de haut niveau à l'INSEP et elle a pris aussi beaucoup de discussions avec Sarah Abitbol, qui l'a remerciée d'ailleurs pour son travail professionnel dans le livre que Sarah Abitbol vient d'écrire. Je le disais, donc, l'actualité sportive, autrement avec vous, Axel May, bonjour.
Bonjour.
Et donc, Chamonix, qui reçoit les meilleurs skieurs du monde.
Eh oui, la station de Haute-Savoie accueille un week-end de Coupe du Monde, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 4 ans. D'importants travaux ont permis à Chamonix de se refaire une beauté et d'être aux normes de la Coupe du Monde avec... Au programme aujourd'hui, un slalom. La seconde manche va débuter. Les Français, Cyril de la Morinerie, sont très bien placés.
Oui, très belle première manche pour les Français. D'abord pour Clément Noël, le skieur de 22 ans qui s'était lancé le premier sur la piste, a réalisé le deuxième temps. Et puis surtout la star, Alexis Pinturault, s'est parfaitement faufilé entre les piquets pour s'offrir le quatrième temps à 48 centièmes du Suisse et leader de la première manche, Daniel Yule.
Plutôt bien placé, je suis content du ski que j'ai produit. Surtout que les dernières fois où on a eu ce genre de neige, ça s'est vraiment pas très bien passé pour moi. Les sensations n'étaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, c'était très différent et je suis plutôt content de la manière dont ça a réagi sur la première manche.
Content aussi de constater que son rival, le Norvégien Henrik Kristoffersen, a enfourché. Si Alexis Pinturault termine cet après-midi sur le podium, il lui ravira la première place au classement général provisoire de la Coupe du Monde. Comme dirait Clément Noël.
Ah, ça c'est la bonne nouvelle du jour.
Poussé par plusieurs milliers de spectateurs sous le soleil, au pied du Mont Blanc, les Français espèrent réaliser un feu d'artifice. Début de la deuxième manche ici aux Ouches dans quelques minutes, à 13h exactement.
Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 à Chamonix.
Le football et Marseille Fringant, deuxième de Ligue 1, reçoit à 17h30 Toulouse.
Le TFC, lanterne rouge du championnat, autrement dit, vous l'aurez compris, hein, le favori, c'est Marseille. Les autres matchs du samedi à l'occasion de cette 24e journée de championnat auront lieu comme d'habitude à partir de 20h, à suivre bien sûr dans le multiplex d'Europe 1. Je vous les donne, Amiens-Monaco, Dijon-Nantes, Metz-Bordeaux, Nice-Nîmes et Rennes-Brest. Derby breton, hein, sans la présence d'Olivier Létang, le président rennais, remercié hier par la famille Pinault, notamment pour mésentente avec l'entraîneur du club rennais, Julien Stéphan. Et puis, autre derby breton en Ligue 2, cette fois à 15h, Guingamp affronte le leader Lorient.
Il est souvent considéré comme le tournoi de référence en judo. Le tournoi de Paris-Bercy se dispute ce week-end presque à guichet fermé.
Oui, par exemple, il ne reste que 300 places aujourd'hui et demain, moins de 200, la plupart à plus de 50 euros l'unité. Alors en attendant, Mister Teddy Riner, demain, le public de Paris-Bercy peut voir aujourd'hui la meilleure française du moment et même de l'histoire, Clarisse Agbenenou, quatre fois championne du monde et qui prend chaque compétition comme une répétition avant les JO cet été où elle visera le titre olympique.
Exactement, c'est un petit peu comme on va dire les danseuses ou font leur petite répétition pour être parfaite, mais parfaite le jour J. Donc pour moi, j'ai encore droit à mes erreurs. Une répétition, ça sert à tomber, à essayer, à peaufiner. Donc pour moi, je peaufine. Par contre, le jour J, je serai prête.
Clarisse Agbenenou au micro européen de Corinne Boulou. La Française a remporté son premier combat de la journée sur Hippon en catégorie, bien sûr, moins de 63 kilos.
Et en tennis, Gaël Monfils va tenter d'atteindre la finale du tournoi de Montpellier.
La Monf, c'est son surnom. Tête de série numéro 1 affronte à partir de 15h la tête de série numéro 7, le Serbe Filip Krajinovic. Mon fils, qui était wildcard invité sur ce tournoi de Montpellier.
Merci beaucoup, Axel May. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à ArcadeB. ArcadeB vous présente la météo.
Et on peut dire, Valérie Darmon, que c'est le calme avant l'arrivée de la tempête Ciara.
Absolument, et que se passe-t-il dans notre ciel ? Eh bien, l'anticyclone qui était centré donc hier sur le nord de la France va se décaler vers l'Allemagne et la Pologne et on a une dépression en même temps qui se creuse sur l'Atlantique. Entre ces deux systèmes, le vent se lève et une faible dégradation traverse, et pour aujourd'hui, le nord-ouest du pays. Ailleurs, il fait globalement beau et doux. Demain, cette perturbation associée à la tempête Ciara, située sur le proche Atlantique, s'enfonce sur le nord de la France. Elle va apporter des pluies faibles à modérées au nord de la Loire et sera accompagnée par un vent de sud-ouest assez fort avec des rafales de 80 à 100 km/h de l'intérieur vers les côtes. Les températures sont toujours supérieures aux moyennes de saison, 2 à 4 degrés au-dessus. Sous les pluies du nord-ouest, elles plafonnent entre 8 et 10 degrés. Mais ailleurs, vous aurez 10 à 13 et localement 17 sur le Pays Basque et pas plus de 7 à 8 au même moment en Alsace. Le temps qui est donc contrasté côté ciel comme côté température.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre depuis 10 jours et les révélations de l'ancienne championne Sarah Abitbol, c'était donc le grand déballage dans l'univers feutré du patinage artistique. Et on l'a entendu au début de ce journal, Didier Gayaguet qui a donc décidé de démissionner, comme lui avait demandé lundi la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Au-delà de cela, ça pose beaucoup de questions sur ce mur du silence autour des agressions sexuelles dont sont victimes les jeunes sportifs. Comment finir avec cette omerta ? On en parle avec la psychologue Meriem Salmi qui travaille auprès de l'INSEP.
Il est 12h50, le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et on le disait depuis 10 jours, depuis la sortie du livre de Sarah Abitbol, un si long silence, c'était donc le grand déballage dans le monde feutré du patinage artistique. Et on l'a donc appris et ça a été une vraie surprise, la démission ce matin, il y a quelques minutes, de Didier Gayaguet, le président de la Fédération des Sports de Glace. Démission qu'avait demandé en début de semaine Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Avec moi en studio, la psychologue Meriem Salmi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été responsable du suivi psychologique des sportifs de haut niveau à l'IMSEP. Vous intervenez toujours auprès de l'IMSEP comme experte dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Vous nous en parlerez. Vous avez pris en charge aussi à la fin de sa carrière Sarah Abitbol. Votre première réaction, vous qui connaissez bien justement ce milieu du monde sportif avec l'annonce de cette démission de Didier Gayaguet.
Évidemment, je peux penser que c'est une belle chose, qu'on tourne une page et qu'on passe sur une seconde à un autre chapitre qui est celui effectivement d'arrêt de ce qui a pu se produire jusqu'à maintenant. Même si, évidemment, on va éviter de tomber dans l'excès, bien sûr. Il y a des tas de gens qui travaillent dans ce milieu et qui sont merveilleux. Il y a quand même des choses qui se sont produites et on ne peut pas être dans le déni de cette réalité-là.
Ces mots, d'ailleurs, en début de semaine, avaient heurté quand Didier Gayaguet avait dit lors de cette conférence de presse qu'il ne savait pas, qu'il n'avait rien su et que c'était un peu facile de le salir bien des années après, lui, qu'elle a été à la tête de cette fédération pendant près d'une vingtaine d'années.
Alors effectivement, le jugement relève de la justice et nous, on ne va pas le faire. Hein. Maintenant, il y a des faits avérés, des choses qui ont été relevées. Moi, je ne peux pas rentrer dans... Je ne connais pas tout ce qu'il a pu recevoir comme mot. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que des gens ont parlé aujourd'hui et qu'il semblerait qu'il soit au courant. Donc ça, c'est un peu plus embêtant pour lui, oui.
Myriam Salmi, je le disais, Sarah Abitbol vous remercie dans son livre pour le soutien professionnel que vous lui avez apporté. Vous l'avez accompagnée, vous m'avez dit, à la fin de sa carrière, à un moment où elle témoignait d'un mal-être à l'époque, sans trahir bien évidemment le secret professionnel auquel vous êtes tenu, quand vous la voyez, comme elle l'a écrit, sortir de ce long silence, libérer sa parole, votre réaction ?
Alors là, en tant que professionnelle... malheureusement, c'est des choses auxquelles on est confronté, mais je vais réagir aussi en tant que femme, peut-être aussi. Hein, et puis aussi en tant que maman. De savoir que dans un milieu que j'adore, il se passe des choses horribles. Et je ne peux pas l'accepter, comme beaucoup de gens ne peuvent pas l'accepter d'ailleurs. Les gens s'expriment aujourd'hui. Hein, c'est très compliqué. Maintenant, on sait aussi qu'à partir du moment où les gens posent les choses dans nos bureaux de psychologues, on sait que là, il y a une perche qui va nous permettre de les aider à se réparer.
On va revenir dans un instant avec vous, Myriam Salmi, justement, sur les réponses qu'on peut apporter, parce qu'on a vu qu'il y a eu d'autres scandales dans d'autres fédérations. Je pense au tennis, avec cette grande sportive qui a dénoncé, elle aussi, son entraîneur qui a été condamné à 10 ans de prison, Régis de Camaret. Mais nous sommes en ligne avec Didier Lucine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes entraîneur à Annecy. On vous a entendu sur l'antenne d'Europe 1 avec des mots très directs hein, cette semaine, appelé à la démission de Didier Gayaguet. Votre réaction, justement, puisque ça y est, il a démissionné.
Bah, écoutez, c'est bien. C'est bien pour le sport, c'est une justice. Ça sera bien pour tous les futurs sportifs et surtout éviter de futures victimes. Parce que maintenant, il va y avoir vraiment, suite à cette histoire, ça va resserrer et beaucoup vont faire attention à ce qu'ils font et ça, c'est top.
Est-ce que ça doit s'arrêter là, juste à cette démission ? Est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'un mur du silence qui peut se reconstruire ?
Oh, je pense qu'actuellement, ça va être dur de faire un mur de silence. Non, normalement, ça va évoluer. Il va y avoir... La ministre a bien parlé, la ministre a prévu plein de solutions et je pense qu'elle va les mettre en place.
Merci beaucoup Didier Lucine d'avoir été avec nous pour cette première réaction. Je rappelle, entraîneur donc à Annecy, dans ce monde du patinage artistique, on l'a vu vraiment véritablement ébranlé. Myriam Salmi, je rappelle, donc psychologue qui travaille auprès de l'IMSET avec des athlètes de haut niveau. D'où vient cette omerta ? Est-ce que c'est cette relation entraîneur-jeune sportif qui justement favorise cela ?
Alors, on est en plus là sur des sports à maturité précoce. Donc ce sont des enfants qui arrivent avec évidemment un contexte particulier parce que progressivement, l'entraîneur va devenir le personnage principal même de leur vie parce qu'ils vont voir plus leur entraîneur que leur propre famille. Donc il y a une espèce de substitution, ça ne veut pas dire qu'on enlève la famille, mais il y a un lien affectif très fort. On sait que les enfants investissent de manière extrêmement forte les relations sur le plan affectif. Ce ne sont pas des adultes qui peuvent prendre de la distance par rapport à ce qu'on leur dit.
Il y a donc un risque d'emprise s'il y a dérive.
Tout à fait. Ce sont des milieux à risque. Ces milieux-là doivent être protégés.
Et comment ?
Alors, je pense qu'effectivement, laisser seul un entraîneur ne peut pas être compatible avec ce type de contexte. On doit être capable aujourd'hui, et ça se fait d'ailleurs, hein, je pense par exemple à l'INSEP, hein, je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé à l'INSEP, hein, je ne suis pas là pour défendre l'Omerta, on est bien d'accord, mais ce sont des lieux où il y a beaucoup de monde. Je pense que les milieux les plus à risque, je ne dis pas que l'INSEP est préservé, je dis que les milieux les plus à risque sont les milieux isolés, hein, où là, effectivement, cette relation, il y a peu de monde, le bénévolat se fait rare, donc il faut qu'il y ait du monde autour, il faut qu'il y ait des gens autour.
Peut-être un dernier mot, Myriam Salmi, pour les parents qui aujourd'hui s'inquiètent alors que leurs enfants ont envie d'embrasser ces superbes carrières sportives. Je sais que vous êtes auprès d'un grand athlète que tout le monde admire comme Teddy Riner. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents ?
Alors, sans rentrer dans la paranoïa, effectivement, être vigilant. On ne peut pas confier son enfant sans tenir compte d'un certain nombre de facteurs, et notamment des signes dans le comportement de leurs enfants. Par exemple, s'il y a des modifications de comportement, si tout d'un coup ils se traînent pour aller à l'entraînement, si tout d'un coup ils sont plus souvent malades. Enfin, tout un tas de signaux de modification du comportement qui peuvent alerter les parents. Hein. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, grâce notamment à Sarah, bien qu'il y ait eu quand même la première qui a parlé, c'est Catherine Moyon de Bec. Je pense qu'aujourd'hui,
Chantaine
on est dans
de France du marteau. Hein.
Tout à fait. Je pense que là, on va, y a une sensibilisation qui va se faire. Les gens n'hésiteront plus à parler. Je pense que justement, la victoire, ça va être ce jour où on ne se posera plus la question de parler. Et qu'on dira les choses, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas acceptable. Et à ce moment-là, les parents, évidemment, ont un rôle essentiel de ne pas accepter aussi l'inacceptable, même au risque de rendre tristes leurs enfants, parce que c'est avant tout une histoire d'amour pour ces enfants, une histoire de passion. Donc c'est compliqué pour les parents de se positionner.
Merci infiniment Myriam Salmi d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle, psychologue auprès de l'INSEP, et on comprend combien cette parole qui se libère est précieuse et combien il ne faut pas reconstruire ce mur du silence. On y reviendra dans un instant dans Tout Terrain, justement avec Corinne Boulou, parce qu'il y a eu, vous l'avez dit, d'autres championnes, et je pense particulièrement à Isabelle Demongeau qui va elle aussi oser briser le silence.
Europe 1, il est 13h01. Le rappel des grands titres de l'info de ce samedi 8 février, Fabienne Lemoyle.
Et bien évidemment, on en parlait à l'instant, c'est la démission surprise du président de la Fédération française des sports de glace, Didier Gayaguet. Il l'a annoncé lui-même à l'issue de la réunion extraordinaire d'un conseil fédéral ce matin à la Fédération française des sports de glace. Épilogue d'une semaine où la ministre des Sports lui avait demandé de démissionner dès lundi. Je vous propose d'écouter Didier Gayaguet.
Après avoir dit haut et fort ma vérité sur ce qu'est notre belle fédération, et dans le souci de pur apaisement, j'ai pris avec philosophie, avec dignité, mais sans amertume aucune, devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste de président de la fédération. Je souhaite bon vent à tous. Je resterai un fidèle à la passion amoureuse qui m'a authentiquement animé, celle des sports de glace et de ceux qui la font vivre, à savoir les présidents de clubs et les athlètes.
Didier Gayaguet, ce matin, devant le siège de la Fédération des sports de glace, qui annonce donc sa démission. On vient revenir dès le début Tout Terrain. Nous serons en direct avec Corinne Boulon, rédactrice en chef du service des sports, et avec Christophe Lamarre, qui se trouve au siège de la Fédération des sports de glace. Toujours à la une de l'actualité, 5 nouveaux cas de coronavirus en France, 5 malades infectés qui se trouvent en région Rhône-Alpes. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il s'agit de 4 adultes et d'un enfant qui résidaient tous dans le même chalet à Contamine-Montjoie en Haute-Savoie. Un groupe dans lequel il y avait un Britannique qui avait séjourné à Singapour avant d'arriver en France. Leur état de santé ne présente aucun signe de gravité. Ils ont été hospitalisés cette nuit à Lyon, Saint-Étienne et Grenoble. Cela porte à 11 le nombre de cas en France. Et hier, la ministre de la Santé précisait que dans les 6 premiers cas, certains pourraient bientôt sortir de l'hôpital. Rien à voir avec la situation en Chine, où le dernier bilan fait état de 720 morts et une première victime non chinoise, un Américain de 60 ans qui est décédé dans un hôpital de Wuhan. Le temps de ce samedi, et Valérie Darmon nous le disait dans le journal de la mi-journée, c'est le calme avant l'arrivée de la tempête Ciara, alors que vous le savez, c'est la première vague de départ en vacances pour la zone C.
Et voilà pour l'essentiel de l'info de ce samedi. Vous restez bien sûr avec nous, Fabienne, jusqu'à 14h.
Europe 1.